VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'être à l'écoute de La Voix de l'Amérique en direct du studio 13 à Washington. Eric Manirakiza est ravi d'être avec vous dans cette première édition du Monde aujourd'hui. Nous sommes lundi 1er mai 2017. D'abord le sommaire. La commission électorale en RDC a reporté l'enrôlement d'électeurs au Kasaï après de nouvelles violences. Un 1er mai amer pour le président sud-africain Jacob Zuma. Il a quitté précipitamment un rassemblement sous les huées et sans prendre la parole. Aux États-Unis, la fête du travail a été transformée en une journée de protestation contre la politique migratoire du locataire de la Maison-Blanche. Restez branchés sur votre fréquence magique et merci de votre fidélité. La journée internationale du travail est fêtée en Afrique du Sud dans un climat de confrontation entre le président Jacob Zuma et les syndicats de travailleurs. Le président Zuma a dû annuler sa participation à une marche du 1er mai après avoir été hué par des travailleurs. N'est-ce pas, Abdulrahman Dia?
Les travailleurs qui s'en sont pris au président Jacob Zuma demandaient sa démission. Le mois dernier, la puissante centrale syndicale COSATU avait fait la même demande. Du coup, les discours prévus à cette occasion ont été annulés. Le président a quitté précipitamment les lieux. La semaine dernière, plusieurs organisations syndicales avaient déjà indiqué que le président Zuma ne serait pas le bienvenu à la traditionnelle marche du 1er mai. La COSATU, affiliée à l'ANC au pouvoir, a engagé un bras de fer avec le chef de l'État après le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan, causant une dégradation de la note souveraine de l'Afrique du Sud par Standard & Poor's. Mais ces pressions des syndicats et une partie de la direction de l'ANC ne font toujours pas fléchir le président Zuma, qui a promis de rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat en 2019. Pendant ce temps, la bataille pour sa succession est déjà lancée. Le parti doit choisir son leader avant la fin de cette année.
Nous reviendrons sur la fête du 1er mai dans la deuxième partie de cette édition. Mort d'un soldat nigérien de la force déployée dans le delta du Niger au sud du pays. Selon le porte-parole de la force conjointe, armée police, établie dans ce centre névralgique de la production de pétrole, l'attaque a été menée par un gang criminel contre une position militaire dans les lagunes du sud de l'État d'Ondo. Trois autres militaires ont été blessés, a ajouté le porte-parole de l'armée. En RDC, la commission électorale a reporté s'inédier l'enrôlement des électeurs dans deux provinces du Kasaï dans le centre du pays. C'est à la suite du meurtre d'un chef d'antenne par des rebelles présumés. Et en Ituri, dans le nord-est de la RDC, des heurts opposent depuis samedi des manifestants des forces de sécurité à l'origine. Les meurtres par balle en avril de cinq combistes non élucidés. L'absence d'enquête a provoqué la colère des jeunes de la région. Sahara occidental, le Front Polisario est prêt à entamer des négociations avec le Maroc sur la base du droit des Sahraouis à l'autodétermination. Le point avec Solange Niamoulissa.
Mohamed Kadad, un leader sahraoui, a précisé que ce conflit doit être traité conjointement par l'Union africaine et l'ONU. Selon lui, les négociations devraient aboutir à la liberté et à l'indépendance nationale. Le Front Polisario s'est retiré vendredi de Guerguerat, un no man's land à la frontière avec la Mauritanie. Fin février, le Maroc avait déjà annoncé son retrait de cette zone. Le Polisario avait refusé de quitter malgré un appel lancé par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Vendredi, le Conseil de sécurité a adopté une résolution soutenant une reprise des négociations sur le Sahara occidental. Ce texte prolonge également jusqu'au 30 avril 2018 le mandat de la MINURSO. Dès le lendemain, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a salué cette résolution et a déclaré qu'aujourd'hui, il y a une dynamique.
Solange Niamoulis. L'historien et penseur tunisien Mohamed Talbi est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 95 ans. Il a combattu durant des décennies l'obscurantisme religieux. En 2006, il a affirmé que la charia n'est qu'une production humaine sans relation avec l'islam.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, ici aux États-Unis, l'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch, appelle le président Donald Trump à revenir sur sa décision d'inviter son homologue philippin Rodrigo Duterte à la Maison-Blanche. Les précisions de Timothée Donangmai.
Le président Trump ne doit pas dérouler le tapis rouge à Rodrigo Duterte, mais plutôt lui demander des comptes, a fait savoir Human Rights Watch. Son directeur pour l'Asie, Felim Kain, accuse le dirigeant philippin d'avoir organisé des milliers d'exécutions extrajudiciaires dans le cadre de sa lutte contre les narcotrafiquants. Rodrigo Duterte fait l'objet d'une plainte à la Cour pénale internationale sur la base de telles allégations. Le président philippin assure que son gouvernement n'appuie pas ces exécutions extrajudiciaires, mais dans ses discours à la nation, il menace souvent de mort les trafiquants de drogue. Dimanche, la Maison-Blanche a défendu l'idée d'inviter le président Duterte. Selon Reince Priebus, secrétaire général de la présidence américaine, c'est dans le cadre des efforts du président Trump pour renforcer l'alliance internationale contre la menace croissante que pose la Corée du Nord.
Timothée de Nangmai, ici toujours aux États-Unis. Ce pays est l'un des rares pays au monde à ne pas célébrer la fête du travail le 1er mai. Mais des groupes de défense des droits humains, des syndicats ouvriers ont organisé aujourd'hui des manifestations à travers le pays pour protester contre la politique migratoire de Donald Trump. Gabi Dorsin.
Depuis 2006, le 1er mai a été littéralement transformé en journée des immigrés aux États-Unis. Ce lundi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC pour dire non à l'expulsion des sans-papiers. En plus des marches, des militants de certains États comme l'Indiana, le Massachusetts et le Texas ont aussi lancé un appel à un arrêt de travail. Les organisateurs ont demandé aux immigrés de ne pas aller travailler, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école et de rester loin des centres d'achat. L'idée était de démontrer aux Américains à quoi ressemblerait une journée sans immigrés. Selon Kit Samatos, porte-parole du mouvement pour une réforme juste de l'immigration, depuis l'élection de Donald Trump, le soutien populaire à la cause des étrangers s'est considérablement accru. Tom Wong, un politologue de l'Université de Californie à San Diego, croit que l'attention du nouveau pouvoir à la question migratoire joue en faveur des mouvements pro-immigrés aux États-Unis.
Et Donald Trump peine à mettre en application son programme migratoire. Deux décrets déjà signés ont été bloqués par des juges fédéraux. À 6 jours du second tour de la présidentielle en France, 4 policiers ont été blessés dans des heurts aujourd'hui à Paris, en marge des défilés du 1er mai. L'incident s'est produit entre des jeunes cagoulés et les forces de l'ordre. Le cortège, mené par 4 syndicats derrière une banderole proclamant contre les reculs sociaux, terreau de l'extrême droite, a dû s'arrêter à plusieurs reprises. C'était une journée de mobilisation en ordre dispersé dans toute la France, tous unis contre la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen. Les manifestants sont toutefois divisés sur le vote pour son rival centriste Emmanuel Macron, qui a reçu aujourd'hui un soutien de taille de l'ancien ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo. Près d'un 1,5 million de Russes ont défilé aujourd'hui dans le centre de Moscou pour la fête du travail. Selon la police de la capitale, il s'agit d'une affluence bien plus importante que les années précédentes. Human Rights Watch accuse le régime syrien d'avoir utilisé des gaz neurotoxiques dans 4 attaques présumées. Cette ONG soutient ces accusations sur 60 témoins, des photos et des vidéos de l'attaque présumée de Khan Sheikhoun le 4 avril qui a fait 87 morts ainsi que d'autres utilisations de gaz neurotoxiques en décembre 2016 et mars 2017. 3 nouvelles arrestations aujourd'hui dans le nord-ouest de Londres. Selon un communiqué, la police britannique a agi dans le cadre du démantèlement d'une cellule terroriste active dans cette localité. Les 3 interpellés sont 3 femmes, dont 2 de 18 ans et une autre de 19 ans, qui s'ajoutent à 5 autres personnes interpellées jeudi dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité en Afrique et ailleurs, suivez la Muniteco avec Claire Morin-Gibault.
Commémoration de la fête internationale du travail ce 1er mai sur le continent. À Douala, au Cameroun, les syndicats ont dénoncé le dialogue de sourds avec le gouvernement lors de manifestations appelant à plus de cohésion sociale. Dans une interview à l'agence APA, Isaac Bissala, le président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, a regretté que le dialogue social n'existe pas dans les entreprises qui privilégient la répression. Dans son discours du 1er mai, Alassane Ouattara a annoncé la réduction d'environ 5% du budget de chaque ministère en raison de la chute des cours du cacao sur le marché mondial. Le chef de l'État ivoirien a précisé que des investissements seront également revus à la baisse, comme la construction d'écoles ou de centres de santé ou la fourniture en eau potable. Il a ajouté que le programme d'électrification des villages de plus de 500 habitants qui devait être achevé en 2017, sera reporté à 2018. La Chine parie sur le Maroc. La Banque centrale chinoise a conclu un accord d'échange dirham-yuan de 1,5 milliard de dollars. Un fonds d'investissement sino-marocain d'un milliard de dollars a été lancé par le groupe chinois AIT, Morocco China International et le groupe marocain BMCE, Bank of Africa. Et la société de télécommunications Huawei a installé son nouveau siège pour la région Afrique francophone à Casablanca.
Et nous enchaînons avec des sports ce soir, Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence par le football. La FIFA a levé la suspension prise à l'encontre de la FEMAFOOT, c'est la Fédération Malienne de Football.
Oui, cette suspension était une réaction de la FIFA après la dissolution du comité exécutif de la Fédération Malienne de Football par le ministère des Sports le 8 mars dernier. Dans un communiqué, la FIFA rappelle avoir pris acte de cette décision du ministre des Sports de revenir sur la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football et de son remplacement par un comité provisoire chargé de gérer les affaires courantes.
Bagassi, ça fait la une des médias en ligne au Burkina Faso. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, la presse là-bas raconte depuis ce matin qu'Hervé Kofi Kwaku, le portier actuel de l'ASEC d'Abidjan et qui avait beaucoup fait parler de lui lors de la CAN 2017, eh bien, que Hervé Kwaku, le portier des étalons, portera les couleurs de Lille en Ligue 1 française à partir de la saison prochaine. D'après nos confrères, l'ASEC d'Abidjan et le club français seraient parvenus à un accord pour un pré-contrat de 5 ans.
Et le nouveau sélectionneur de la Tunisie vise le mondial.
Oui, Nabil Maloulou s'est fixé lors de sa présentation à la presse ce lundi pour objectif la qualification mondiale 2018, qui serait la première participation des Aigles de Carthage à une phase finale depuis 2006. Maloul, âgé de 54 ans, qui avait déjà dirigé la sélection durant quelques mois en 2013, a été nommé jeudi dernier à la suite du limogeage du technicien franco-polonais Henri Kasperzak.
CHAN 2018, le Soudan du Sud au deuxième tour.
Oui, le Soudan du Sud s'est imposé 2-0 à domicile lors du match retour, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2018. À l'aller, les Soudanais avaient gagné la Somalie 2-1. Les Soudanais du Sud croiseront en juillet l'Ouganda au deuxième tour.
Et puis demain, la première demi-finale de la Ligue des Champions.
Avec ce derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid au stade Santiago Bernabéu, les rivaux de la capitale espagnole se retrouvent en C1 pour la quatrième fois en 4 ans, après les finales 2014-2016 et les quarts 2015 qui ont tous souri au Real, actuel tenant du titre.
Oui, et Zidane qui dit réserver une surprise aux amateurs du ballon rond. Et mercredi, Monaco recevra la Juventus Turin.
Oui, toujours en demi-finale de Ligue des Champions qui offre un somptueux duel de vieux buteurs sud-américains, le Phoenix Radamel Falcao de Monaco contre Gonzalo Higuain qui veut faire mentir sa réputation de buteur muet dans les gros matchs de Ligue des Champions.
Oui, et le PSG qui est en difficulté en France et en demi-finale début ce soir des demi-finales dans la conférence Est. Toronto affronte Cleveland. Là, nous parlons de la NBA. Houston va en découdre avec les Spurs de San Antonio.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
de retour avec vous, Eric Manirakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les dossiers du jour. Atmosphère de fin de règne en Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma a dû annuler sa participation aux célébrations de la fête du travail, les travailleurs lui ayant signifié qu'il n'était pas le bienvenu. Pendant ce temps, la lutte pour sa succession s'intensifie au sein de l'ANC, son parti. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur André Thomas Sausen de l'Institut du droit international et comparatif, Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
L'opposition contre le président Zuma a monté à un niveau même de fièvre et il est un peu isolé dans le parti. Il y a presque plus de factions qui l'appuieraient ouvertement. Il a évidemment encore des clans, des cercles qui l'appuient parce qu'il s'intègre avec lui dans des intérêts économiques et des intérêts d'affaires. Mais politiquement et dans la politique de base, il a vraiment perdu beaucoup d'appui. Surtout la grande fédération des syndicats, la COSATU, a décidé de joindre ceux qui demandent la démission de Zuma.
C'est un sérieux revers pour le président sud-africain. Que va-t-il faire?
C'est parfois la tragédie des présidents qu'après quelques années dans le pouvoir, ils perdent le sens de la réalité et ils n'arrivent pas à comprendre que les affinités et les préférences des électeurs peuvent changer. Fondamentalement. Et pour Zuma, vraiment, c'est la fin de son pouvoir. Il est encore le président, formellement. Il peut organiser des délais pour un vote secret dans l'Assemblée nationale avec un vote de la majorité simple des députés. Pourrait provoquer la démission de Zuma. Sauf que pour que cela arrive, il faudrait avoir un accord préalable que la votation soit secrète. Parce que les députés de l'ANC qui appuieront un vote de non-confiance en Zuma auront un peu peur. Ils se sentiront intimidés de faire ça avec un vote ouvert.
La lutte pour la succession du président Zuma s'intensifie avec notamment ce duel entre Cyril Ramaphosa et Kossasana Dlamini Zuma. Comment voyez-vous cette confrontation?
Bon, il n'y aura pas de majorité ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense pouvoir dire que peut-être 35% des délégués de l'ANC pour une conférence. D'ailleurs, il y a une conférence à venir en mois de septembre. Et avant, maintenant, ce mois-ci, en mois de mai, il y aura une réunion très importante de définition politique, de réflexion politique. Je pense que la madame Dlamini Zuma, l'ancienne épouse du président Zuma, pourra rassembler peut-être 35% des délégués. Et M. Ramaphosa peut-être aussi une trentaine ou 35, peut-être 40%. Mais il n'y aura pas un front uni dans le parti pour le choix d'un nouveau président.
L'analyse du professeur André Thomas Sausen de l'Institut du droit international et comparatif, Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Donangmaï et ses invités.
Les réfugiés rwandais installés au Congo-Brazzaville ne bénéficieront plus de ce statut dès le 31 décembre 2017. Les gouvernements du Congo et du Rwanda, en partenariat avec le HCR, travaillent sur cette échéance. Mais dans la communauté des réfugiés rwandais, souligne notre correspondant Nguela Ngoussou, la majorité des réfugiés ne veut pas de cette mesure qui les incite à rentrer et déplore qu'on continue de commémorer l'anniversaire du génocide des Tutsis et pas celui dit l'un d'entre eux, des Hutus.
Vous êtes sans ignorer, vous êtes actuellement en train de célébrer le génocide pour la 23e fois. Et c'est le génocide des Tutsis. À quel moment est-ce qu'on va célébrer le génocide des Hutus? Et donc les réfugiés ont peur d'aller dans un pays où ils n'ont pas le droit.
Ces propos d'un jeune réfugié rwandais résument l'angoisse et les dépit qui suscitent au niveau des réfugiés rwandais le fait d'entendre qu'ils perdraient à partir du 31 décembre 2017 leur statut. Le HCR l'a confirmé et y travaille même déjà. Mohamed Nafian est le chef de bureau du ICR à Bétou, au nord du Congo, où on compte quelque 1979 réfugiés rwandais.
Cette année surtout, nous sommes très sûrs qu'il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugiés, soit le rapatriement que le HCR pourrait faciliter.
À Brazzaville, les réfugiés vivent cela comme un harcèlement. L'étudiant Patrick Mataboro n'en veut même pas en entendre parler.
Vous voyez que les réfugiés se trouvent dans des situations inconfortables à cause de ce qui se trouvait, de ce que le Rwanda est en train de faire. Donc, qu'ils affichent la paix aux réfugiés rwandais, qu'ils laissent les réfugiés rwandais vivre en beauté, dans leur sécurité. Donc, c'est ça ce qu'on demande.
Marie-Claire Niramaoro revient sur le calvaire vécu pendant la fuite du génocide en 1996.
Nous avons peur de retourner chez nous parce que le pays que nous avons fui n'a toujours pas organisé de dialogue. Pendant notre fuite, nous avons vu dans les forêts de RDC comment les réfugiés rwandais, les Hutus en majorité, ont été pourchassés et massacrés par le FPR. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, ceux-là qui nous ont tués nous demandent aujourd'hui de rentrer au pays.
Luamba Moke, président de la DUC, une ONG locale, appelle le Congo et le Rwanda à abandonner ce projet. Dépassé un mois, dit-il, il saisira la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
À la fin de l'année 2017 et au début de 2018, que ça soit effectivement des personnes qui vont devenir des migrants clandestins et en leur qualité de migrants clandestins, ils vont être expulsés. Voilà, nous craignons cela. Et en ce moment, nous allons saisir la Commission africaine des droits des peuples pour que la Commission puisse prendre autorité sur cette question-là.
Docteur Eric Ndayishimier, un autre réfugié rwandais, refute ce qui se dit dans les rues de Brazzaville, que les réfugiés rwandais se sont enrichis ici et ne veulent plus rentrer chez eux.
Même ceux qui ont ces moyens-là ne veulent pas rentrer. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cartes pour déposer cet argent en banque. On dit vos cartes ne sont pas acceptées. Pensez-vous que nous sommes vraiment... Cette situation nous plaît? Non, pas du tout.
En tout cas, les jours s'égrènent, les deux gouvernements et le HCR ont en main leur agenda. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Mali, depuis le 6 février dernier, le collectif des enseignants du Nord est en grève illimitée. Cela a pour conséquence la fermeture de toutes les écoles publiques dans la région. Malgré les nombreuses démarches entreprises par les responsables de l'éducation et de la société civile au niveau local, les syndicats ne fléchissent pas les candidats aux différents examens, crient au secours. Boubacar Touré a tendu son micro à certains candidats et à des parents d'élèves. Voici leur réaction.
L'année scolaire 2016-2017 a été fortement perturbée dans la région. Le collectif des enseignants du Nord est en grève illimitée depuis le 6 février dernier. Et pourtant, les examens sont annoncés pour très bientôt. Voici la réaction de quelques personnes interrogées.
Le gouvernement n'a qu'à trouver une solution pour ça, pour que les enseignants viennent nous enseigner. Sinon, le DEF, là, ça sera très difficile. Les professeurs qui sont en grève, je le dis seulement deux. Fait tout pour qu'ils viennent donner un peu de coups, même si le gouvernement ne les a pas payés.
Ahimir Daouda Mega, GFM Digao. Je lance vraiment un appel à l'autorité compétente, vraiment de faire tout pour qu'ils nous aident vraiment à surmonter vraiment ces problèmes.
Mohamed Aboubakar Touré, lycée Yana Mega, terminale sciences sociales. Nous, quand même, on n'est pas prêts. Je veux que le gouvernement repousse les dates d'un mois ou bien de deux mois.
Déjà, Mohamed, je suis candidate au bac, juste pour les enseignants, quoi.
Si le gouvernement nous aimait comme ils le disent, ils allaient répondre aux enseignants. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Leurs enfants ne sont pas au nord. Qu'on fasse tout pour sauver l'année, puisqu'on ne veut pas d'année blanche vraiment.
Moi, je me nomme Ali Abdourahmane Maïga, école fondamentale de Sanaïbé. Il y a beaucoup de syndicats. Les magistrats se gèrent, les hôpitaux se gèrent, mais sans éducation, qu'est-ce que c'est qu'un État? Les Mali de demain, c'est nous. Et si on n'étudie pas, l'État n'a qu'à chercher une solution.
Je m'appelle Douda Meïga. Nous, nous sommes les parents d'élèves. À ce titre, nous sommes vraiment confiés et inquiets. Les enfants à Gao n'ont fait que 3 mois de cours. Et on leur demande de faire des examens. Quel examen pourront-ils faire dans de telles conditions? L'État veut sacrifier nos enfants ou quoi? Quant aux enseignants, que l'on comprenne que ce sont les enfants à nous tous.
En réalité, l'école s'est confiée à nous qui sommes à Gao, hein? Est-ce qu'il y a un enseignant qui peut dire qu'il n'a pas d'enfant à l'école?
Mohamed Ibrahim Touré. On peut bien sauver l'année scolaire. Si on décale, c'est une bonne chose parce que là, ça permet de mettre le paquet. Moi, je crois que c'est bien possible.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Suite de notre série de reportages sur la situation humanitaire autour du lac Tchad, parlons ce soir des réfugiés nigériens qui ont fui Boko Haram pour se réfugier au Tchad. Beaucoup sont des pêcheurs qui tentent de poursuivre leurs activités sur le lac. Nicolas Pinault, notre envoyé spécial sur place, voici son reportage.
Au petit matin, les bords du lac Tchad ne sont pas silencieux, au contraire. Dans le village de Tagal, on s'active pour nettoyer les poissons attrapés pendant la nuit. Les pêcheurs des réfugiés nigérians tentent de mener une existence similaire à leur vie d'avant, avant les attaques de Boko Haram. Okacha Seydou, 14 ans, originaire de Doronbaga, village nigérian attaqué par les djihadistes en janvier 2015.
Ma vie d'avant me manque. Je suis un pêcheur et la vie ici n'est pas facile. J'ai des amis qui sont restés au Nigeria, ils me manquent.
Les réfugiés nigérians cohabitent pacifiquement dans ce village de Tagal, où les habitants tchadiens leur louent les bateaux et les filets nécessaires pour pêcher. Une location qui coûte cher, puisqu'en moyenne, il faut reverser un tiers de la pêche quotidienne aux propriétaires du bateau. Mohamed Michael est un pêcheur nigérian.
On paie pour tout, pour aller pêcher, pour le filet, pour le bateau. C'est dur. Quand les conditions et la pêche seront revenues, on rentrera au Nigeria.
Ce matin-là, sur sa pirogue, on croise aussi un colosse, Abakar Maïga. Avec son débardeur jaune, ce Malien originaire de Gao explique qu'il a quitté son pays depuis les années 90 pour exercer son activité de pêcheur.
Tout le monde sait pourquoi nous sommes là. C'est à cause de Boko Haram. Je suis un pêcheur au Mali. Je ne pouvais pas pratiquer la pêche. Donc je suis venu ici. Je n'ai pas d'autre source. Je ne vis que pour ça.
Depuis les premiers attentats de Boko Haram en territoire tchadien à l'automne 2015, la sécurité s'est grandement améliorée dans la zone du lac Tchad et les habitants de Tagal savourent ce retour au calme. On écoute l'un d'entre eux sur VOA Afrique, Ali Mborou.
Avant 2015, on avait un peu peur, mais maintenant Boko Haram est repoussé jusqu'au niveau des frontières. Donc maintenant, il n'y a rien. On n'a pas peur, on dort bien la nuit.
Il est déjà 10h du matin, ce jour-là à Tagal. Les pêcheurs nigérians prennent leur repas avant d'aller dormir. Une nouvelle nuit blanche à pêcher les attend en fin d'après-midi sur le lac Tchad. Nicolas Pinault, Tagal, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et bonne fête du travail à tous les travailleurs, ceux qui ne travaillent pas. Gardez l'espoir, tu n'es pas ce que tu veux, mais tu seras ce que tu voudras. Et c'est la fin de cette édition, la mise en onde de Joselle Morissin, à la console John Dryden, à la présentation Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact 24 heures sur 24 sur Facebook et notre site internet. À bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.